un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
L'éclair aveuglant d'une lumière crue strie le ciel de Gaza ce soir. Les gens courent pour se mettre à l'abri, ne savent même pas s'ils sont morts ou vifs. Solitaires, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 3 juin 2024, il est 11h30 et c'est Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord pour une chronique qui en réalité a été enregistrée dimanche soir, ne pouvant être présent au studio de RLP, donc ce lundi à 11h30. Proposé pour démarrer cette chronique d'écouter une chanson qui date de 2009, une chanson de Michael Hurt, We Will Not Go Down. Nous ne capitulerons pas. Foulée, je vous ai lu les toutes premières paroles de cette chanson. Je vous propose de la lire en totalité. C'est vraiment un texte très très beau et d'une grande actualité. Je vous rappelle, c'est un texte qui date de 2009. Alors je reprends depuis le début. L'éclair aveuglant d'une lumière crue strie le ciel de Gaza ce soir. Les gens courent pour se mettre à l'abri, ne savent même pas s'ils sont morts ou vifs. Ils viennent avec leurs tanks et leurs avions, avec leurs flammes ardentes qui ravagent, et plus rien ne subsiste. Seule une voix s'élève des vapeurs de fumée. Nous ne capitulerons pas. Dans la nuit, sans combattre, vous pourrez démolir nos mosquées, nos maisons, nos écoles. Mais notre esprit ne mourra jamais. Nous ne capitulerons pas à Gaza ce soir. Des femmes comme des enfants, tués et massacrés, nuit après nuit, pendant que des soi-disant leaders de pays si lointains jugent de qui est bon et qui est mauvais. Mais leurs mots insipides ne font pas changer les choses, et les bombes pleuvent toujours, telles des pluies acides. Mais au-delà des larmes, du sang, de la douleur, on pourrait toujours entendre cette voix s'élever des vapeurs de fumée. Nous ne capitulerons pas. Dans la nuit, sans combattre, vous pouvez démolir nos mosquées, nos maisons, nos écoles, mais notre esprit ne mourra jamais. Nous ne capitulerons pas à Gaza ce soir. Compris, nous allons donc parler aujourd'hui de la Palestine, de Gaza. Il y a une semaine a eu lieu cet effroyable massacre à Rafah, et le monde entier a été ému par ce massacre de dizaines de femmes, d'enfants, de vieillards. Partout, dans les villes du monde entier, par milliers, par dizaines de milliers, parfois par centaines de milliers, les populations, et la jeunesse en particulier, ont manifesté pour exiger le cessez-le-feu immédiat, pour exiger de leurs gouvernements respectifs l'arrêt immédiat de toute livraison d'armes à Israël. On a vu des gouvernements vaciller un petit peu, et aujourd'hui encore, en France, le gouvernement et le président Macron continuent de faire un soutien à Benjamin Netanyahou. Les livraisons d'armes et de pièces pour les armes continuent. Elles n'ont pas cessé en ce qui concerne la France. Alors je vais, pour la suite de cette chronique, vous lire un texte de Edwy Plenel et qui est intitulé « Civilisation judéo-chrétienne, le mensonge historique de Benjamin Netanyahou ». Puisqu'il y a eu également dans l'actualité cette interview sur l'une des plus grandes chaînes de télévision française. Auparavant, j'aurais dire quand même, puisque je parlais à l'instant des livraisons d'armes qui se poursuivent, une victoire a été obtenue. Une pétition a circulé depuis le début du mois de mai en prévision du salon Eurosatory 2024 qui se tiendra du 17 au 21 juin. Et cette pétition, qui a reçu des dizaines et des dizaines de milliers de signatures, exigeait que la France refuse que les entreprises militaires israéliennes puissent venir dans ce salon y présenter des armes avec cet argument et vraiment vomir de la preuve de l'efficacité de ces armements sur le terrain et donc en Palestine. Alors, nous avons eu cette information source AFP du 31 mai à 13h27, les choses sont tout à fait précises, et voilà ce communiqué qui atteste que cette campagne a abouti. Citation, la France annule la participation des entreprises israéliennes au salon Eurosatory de défense. La présence des industriels israéliens et de la défense au salon Eurosatory, un salon international de défense et de sécurité terrestre qui ouvre ses portes le 17 juin près de Paris, a été annulée sur décision des autorités françaises, a annoncé vendredi l'organisateur. Par décision des autorités gouvernementales, il n'y aura aucun stand de l'industrie de défense israélienne sur le salon Eurosatory 2024, a affirmé à l'AFP l'organisateur de la manifestation, Moshe Wentz, sans plus de précision. 74 entreprises israéliennes devaient y exposer leur matériel. Voilà. Alors, vous pourrez bien sûr toujours retrouver le texte de la pétition qui a permis d'arracher cette décision. Nous le mettrons sur le site de Fred Zeller. Vous le trouverez également sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Et quand vous verrez la liste des signataires au niveau d'association et d'organisation, c'est effectivement une liste très impressionnante qui a forcément pesé dans la décision qui a été prise. Alors, je vous propose donc maintenant ce que je vous disais tout à l'heure, la lecture d'un texte de Edwy Plenel, un texte qui date du 31 mai, on est vraiment dans des éléments tout à fait récents. Et ce texte est intéressant parce que nous avons l'habitude dans cette chronique de proposer à nos auditrices et auditeurs des contributions de différentes personnalités de façon à permettre à tout un chacun de réfléchir à ces questions, d'essayer de décortiquer le pourquoi des commandes, de trouver les explications à la situation, de dégager à partir de là les issues qui semblent possibles, de s'organiser vers ces issues. Et je crois que ce texte de Edwy Plenel apporte un éclairage que je partage et que j'avais pour ma part depuis longtemps. Et je pense que c'est intéressant que Edwy Plenel aujourd'hui écrive ceci. Donc le titre « Civilisation judéo-chrétienne, le mensonge historique de Benjamin Netanyahou ». Sur LCI, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a brandi la défense d'une « civilisation judéo-chrétienne », une citation, en étendard de sa croisade contre le peuple palestinien. Démontage d'un mensonge historique qui fait litière de la longue durée de l'antisémitisme chrétien. Votre victoire, c'est votre victoire, c'est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Tel fut l'essentiel du message de Benjamin Netanyahou jeudi 30 mai, durant la tribune que lui a offerte sur sa chaîne d'information LCI, le premier groupe télévisuel français TF1. Sous le coup d'une demande de mandat d'arrêt du procureur de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le premier ministre de l'État d'Israël a pu, sans guère de difficulté, délivrer un discours de propagande que l'on peut lire donc également sur un site avec le décryptage d'un juriste international, Johan Souf. Son but explicite, donc de Benjamin Netanyahou, n'est pas seulement d'obtenir le soutien du peuple français à sa guerre vengeresse contre Gaza, mais d'entraîner notre pays dans une guerre des mondes, jusqu'en son sein, puisque Netanyahou n'a pas hésité à assimiler la menace que représenterait un État de Palestine à celle que constitueraient les banlieues françaises. C'est peu dire que cet épisode médiatique ne grandit pas la France. Du moins la France officielle, ses médias dominants et ses gouvernants en place, dont la complaisance manifeste envers le pouvoir extrémiste israélien, contraste avec l'infatigable mobilisation de la jeunesse en solidarité avec le peuple de Gaza. La veille de cet entretien télévisé, le quotidien Haaretz s'avait rendu visible par des bandeaux noirs, la censure qui lui est imposée par un gouvernement dont le premier ministre n'a, depuis les massacres du 7 octobre 2023, accordé aucune interview à un média israélien, redoutant les questions de journalistes plus offensives que critiques. Cette même semaine, Emmanuel Macron refusait de reconnaître l'État de Palestine, tandis que la présidente de l'Assemblée nationale confirmait son soutien inconditionnel à l'État d'Israël en sanctionnant sévèrement un député insoumis ayant brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Par contraste, le député apparenté Les Républicains, LR, Meir Habib, n'encourait aucun reproche pour son engagement au service de la propagande israélienne, se vantant d'avoir tenu à Jérusalem une réunion de travail avec Netanyahou en vue de son interview sur LCI. Enfin, dans une consternante interview au Figaro, l'ex-président Nicolas Sarkozy brandissait à son tour les racines judéo-chrétiennes de l'Europe, au détour d'une philippique contre le décolonialisme et l'islamo-gauchisme. Cet argument judéo-chrétien est le refrain des tenants d'un choc des civilisations qui promet Israël en bastion avancée de l'Europe face au monde musulman, sorte de citadelle campant sur la ligne de front. Or, c'est un mensonge historique, une mythologie inventée pour justifier et susciter une guerre sans fin, animé par un racisme islamophobe dont le ressort identitaire et religieux ruine l'exigence démocratique d'égalité des droits. Et c'est aussi un sinistre retournement. Au terme de près de 2 millénaires de persécutions européennes, dont l'anti-judaïsme chrétien fut le carburant, les Juifs, qu'ils soient en Israël ou en diaspora, sont ainsi embarqués comme caution, alibi et bouclier d'une croisade anti-musulmane et anti-arabe. La Netanyahou, Sarkozy et consorts, on opposera donc Jules Isaac, 1877-1963, une personnalité aussi oubliée de nos jours qu'elle fut décisive après-guerre dans le rapprochement judéo-chrétien, indissociable pour la mémoire enseignante du Malais Isaac, célèbre manuel d'histoire dont il fut le principal auteur. Faut-il donc m'excuser si je continue de lutter pour dégager et si possible extirper les racines chrétiennes de l'antisémitisme? Non, car elles sont à mon avis les plus profondes. Ces mots, puisque c'était une citation, ouvre l'enseignement du mépris 1962, publié un an avant la mort de son auteur, qui fait suite à Jésus et Israël 1948 et à Genèse de l'antisémitisme 1956, donc les ouvrages donc de Jules Isaac que je viens de citer. Compagnon de Dreyfusard de Charles Péguy, professeur agrégé d'histoire, Nommé inspecteur général de l'éducation en 1936, victime de la persécution des Juifs dès 1940, Jules Isaac va consacrer les 20 dernières années de sa vie à disséquer, à exposer et à combattre les racines chrétiennes de l'antisémitisme, résume son biographe André Caspi, tout en fondant dès 1948 l'amitié judéo-chrétienne. Cette même année, Jules Isaac publie « Jésus et Israël », somme dont le propos est, citation, « de mettre le monde chrétien en face de ses responsabilités qui sont lourdes ». Le livre est dédié à sa femme et à sa fille, assassinées à Auschwitz, tuées par les nazis d'Hitler, tuées simplement parce qu'elles s'appelaient Isaac. Le racisme exterminateur de notre époque, même s'il est en son essence anti-chrétien, s'est développé en terre chrétienne et il a soigneusement recueilli l'héritage, le très douteux héritage du christianisme. Citation de Jules Isaac de décembre 1959. Donc, Edith Penel poursuit donc cette contribution en disant « De livres en conférence jusqu'à Rome auprès du pape Jean XXIII avant le concile œcuménique Vatican II, Jules Isaac va inlassablement plaider pour une prise de conscience de la longue durée de l'antisémitisme chrétien qui fut le terreau européen du crime nazi, remontant minutieusement aux origines de la transmutation d'une sécession minoritaire au sein du judaïsme en institution d'une église chrétienne conquérant le sommet du pouvoir. Il montre comment le christianisme s'est retourné dans sa quête de puissance contre sa source juive. C'est ainsi qu'il arrive, écrit-il dès son carnet du lépreux, 1941-1943, citation, à cette conviction que cette tradition reçue, enseignée depuis des centaines et des centaines d'années par des milliers et des milliers de voix, était la source première de l'antisémitisme, la source puissante et séculaire sur laquelle toutes les autres variétés d'antisémitisme, même les plus contraires, étaient venues se greffer. Fin de citation. Je dis et je soutiens, clame-t-il lors d'une conférence en décembre 1959 à la Sorbonne, que le racisme exterminateur de notre époque, même s'il est en son essence antichrétien, s'est développé en terre chrétienne et qu'il a soigneusement recueilli l'héritage, le très douteux héritage du christianisme. Fin de citation. Cet héritage, c'est principalement l'accusation de déicide élaborée dès que, sous l'Empire romain, l'Église s'est unie à l'État. Dans toute la chrétienté, depuis 1800 ans, écrit Isaac, en exergue du chapitre le plus décisif de son « Jésus et Israël », on enseigne couramment que le peuple juif, pleinement responsable de la crucifixion, a commis le crime inexpiable de déicide. Il n'est pas d'accusation plus meurtrière, et effectivement, il n'y en a pas qui ait fait couler plus de sang innocent. À mille lieues de cette légende irénique d'une civilisation judéo-chrétienne, ce préjugé chrétien qui mène au génocide moderne des Juifs d'Europe pave des siècles de persécution anti-juive. En 1906, la première croisade, décrétée un an plus tôt par le pape Urbain II au concile de Clermont, commence par des pogroms, notamment à Rouen et à Metz, ainsi qu'en Allemagne. On assassine des Juifs, on les force à se baptiser, on accapare leurs biens. En 1215, le concile de Latran accentue la mise en place d'une politique anti-juive, notamment en leur imposant des vêtements distinctifs et en les excluant des charges publiques. En 1269, le roi de France Louis IX leur impose de porter la rouelle, petit trou d'étoffe jaune cousu sur l'habit, ancêtre de l'étoile jaune des persécutions nazies. Allant jusqu'à l'invention vénitienne du ghetto, la mise à l'écart spatial des Juifs au Moyen-Âge se traduit d'abord par l'interdiction de se montrer le dimanche et durant la Semaine Sainte, avant de culminer dans des expulsions définitives qui se multiplieront à mesure que l'Europe se projette sur le monde. Quand la première expédition transatlantique de Christophe Colomb quitte l'Espagne le 3 août 1492, les Juifs ont été contraints de la quitter avant le 31 juillet, par ordre des rois catholiques Isabelle et Ferdinand, qui viennent de mettre fin, avec la chute de Grenade, à 8 siècles d'islam en Occident. C'est pour les Juifs du continent l'ultime rejet, prolongé au Portugal en 1496 par une Europe où l'expulsion avait déjà frappé partout ailleurs, 1290 en Angleterre, 1306 en France. Dans cette longue durée européenne, La persécution des Juifs accompagne l'affirmation d'une identité chrétienne hégémonique et homogène qui pourchasse les altérités et légitime les dominations. La limpieza de sangre, la pureté de sang, sévira dans la péninsule ibérique du XVe au XIXe siècle, pourchassant toute ascendance juive ou maure, alors même que le début de la mondialisation, précipité avec la conquête du continent américain, confronte l'Europe à la question de la rencontre avec l'autre et des identités plurielles, bref, du métissage. En 1685, sous Louis XIV, le Code noir codifie l'esclavage aux Antilles. Son article premier exige d'en chasser, citation, les Juifs qui ont établi leur résidence, au motif qu'ils sont les ennemis déclarés du non-chrétien, non-NOM. Enfin, le même Napoléon Ier, rétabli en 1802 l'esclavage aboli par la Révolution, est aussi celui qui, instaurant une nouvelle monarchie chrétienne, retire implicitement aux Juifs la citoyenneté acquise en 1791 pour les assujettir à des lois particulières qui les consacrent comme autres, différents, inquiétants, une nation dans la nation, résume l'empereur, en tenant un refrain qui sera ensuite celui des antisémites modernes, en particulier d'Édouard Drumont, de Charles Maurras et de l'Action française. L'invention récente d'une civilisation judéo-chrétienne qui affirme une homogénéité culturelle excluant la composante musulmane de l'histoire européenne eut pour figure de proue l'un de leurs contemporains et aînés, Ernest Renan, ayant donné une légitimité savante à la distinction, elle aussi imaginaire, héritée de l'orientalisme allemand entre ariens et sémites. Renan distingue parmi ces derniers les juifs des musulmans dans le contexte de l'expansion coloniale impérialiste et de sa confrontation avec l'islam. L'annexion du judaïsme à une civilisation chrétienne qui lui serait supérieure sert ici d'argument à une exclusion civilisationnelle de l'islam. Olivier Lecourt-Grandmaison a largement documenté l'islamophobie foncière de Renan et accompagne sa conviction que l'Europe conquiert définitivement le monde, l'Occident prenant enfin sa revanche sur l'Orient musulman. « Pour la raison humaine, l'islamisme n'a été que nuisible », écrit Renan en 1883, après avoir, 20 ans plus tôt, le 21 février 1862, proclamé au Collège de France, le génie européen se développe avec une grandeur incomparable, l'islamisme au contraire se décompose lentement. De nos jours, il s'écroule avec fracas. À l'heure qu'il est, la condition essentielle pour que la civilisation européenne se répande, c'est la destruction de la chose sémitique par excellence, la destruction du pouvoir théocratique de l'islamisme, par conséquent, la destruction de l'islamisme. Fin de cette citation, donc, de Ernest Renan, le 21 février 1862, proclamé donc au Collège de France. Attention au contresens sacré anachronique. L'islamisme dont il s'agit ici n'a guère de rapport avec les idéologies totalitaires et terroristes qui aujourd'hui se réclament de l'islam, mais a tout à voir avec un préjugé raciste contre les peuples qu'il s'agit alors de dominer, les cultures qu'il s'agit d'annihiler, et les territoires qu'il s'agit de conquérir. Or, le discours propagandiste de Benjamin Netanyahou convoque, dans notre présent, le même imaginaire au service d'un but politique semblable. Nous faisons partie de la culture européenne, l'Europe se termine en Israël, avait-il déjà dit en 2017 à l'attention des dirigeants européens pour installer Israël en poste avancé de la civilisation judéo-chrétienne. C'est dans un texte de 2020 sur l'instrumentalisation politique du terme judéo-chrétien par les droites extrêmes que le professeur Toby Green de l'université israélienne de Bar-Ilan rappelle cette déclaration. Puis il ajoute ce commentaire pour souligner combien cette arme idéologique attise les feux d'un terrible choc des civilisations où l'humanité court vers l'abîme, prise entre deux feux. L'affirmation de la droite radicale selon laquelle les valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe sont incompatibles avec l'islam, renforce l'affirmation parallèle des islamistes qui cherchent à persuader les musulmans que l'Occident et l'islam sont intrinsèquement en conflit. Fin de citation. En exergue de l'enseignement du mépris, suivi de l'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes, Jules Isaac avait placé deux citations, l'une de son maître Charles Péguy, il y a quelque chose de pire que d'avoir une homme perverse, c'est d'avoir une homme habitué, l'autre de son interlocuteur chrétien, le pape réformateur Jean XXIII, il est un principe vital, c'est de ne jamais déformer la vérité. En 1955, en pleine guerre froide, face à la course aux armements et à l'ère atomique, il avait écrit à Albert Einstein pour lui proposer de mettre sur pied un comité de salut public pour la défense de l'humanité. Le savant est mort avant d'avoir pu répondre. Mais nous qui sommes encore vivants, pouvons dire combien cette initiative serait bienvenue à l'heure où elle meurt sous nos yeux à Gaza. Comme elle meurt, cette humanité, en chaque lieu, Ukraine, Syrie, Yémen, où le droit des peuples et l'égalité des êtres sont bafoués par des puissances et des pouvoirs, des civilisations et des religions, des nations et des identités, etc., qui se déclarent supérieurs à d'autres. Fin donc de cette contribution d'Eddie Plenel, que je soumets donc à vos réflexions. Personnellement, moi, je trouve ce texte particulièrement intéressant et que chacun se fasse une opinion autour de ce texte. Arrivons ainsi au terme de cette chronique et je vous propose pour la terminer d'écouter les premières notes de Ahmad Kaabour, extrait donc de son album Unadicum. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Pretzeler. Et d'ici là, je vous appelle à la mobilisation permanente pour soutenir tous les appels au cessez-le-feu immédiat à Gaza, pour l'arrêt de toutes les livraisons d'armes. Toutes les initiatives qui seront prises cette semaine sont absolument importantes. À la semaine prochaine.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.